BFM Business, midi, leur H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans leur H. On va parler d'Emmanuel Macron à New York. Pourquoi faire? On en parle dans un instant avec Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. On parlera aussi de la rénovation de l'Hôtel Dieu, vous savez, juste sur le parvis de Notre-Dame. Comment ça se passe? Est-ce que c'est retardé? Puis on parlera justement d'économie circulaire avec Joachim Hazan. Il est le président fondateur de Novaxa. Il va nous raconter tout ça. Vous verrez, c'est passionnant. Et puis je recevrai Roland Lescure, député de La République En Marche d'Amérique du Nord, pardon. Et les présidents de la commission des affaires économiques, avec lui bien sûr le budget 2020, avec ce coup de rabot potentiel sur les avantages donnés aux personnes âgées. Est-ce que c'est vraiment le moment? Et pour l'instant, place à Thomas Asportas pour l'essentiel de l'info. Bonjour Thomas.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Et c'est donc officiel depuis ce matin, Thomas Cook est en faillite. L'entreprise n'a pas réussi à trouver ce week-end les fonds nécessaires pour poursuivre son activité. La plus vieille agence de voyage au monde laisse maintenant derrière elle une dette de 1,7 milliard de livres. 22 000 emplois sont menacés. Et pour ce qui est des touristes, Thomas Cook va devoir gérer maintenant le rapatriement de 600 000 voyageurs, dont 10 000 rien que pour Thomas Cook France. La filiale française du voyagiste ajoute qu'elle n'est pas en situation d'insolvabilité immédiate. Dans les autres pays, ce sont 150 000 Britanniques et 140 000 touristes allemands qui sont actuellement en vacances via Thomas Cook. Et puis c'est une journée très difficile qui attend également les compagnies aériennes françaises, puisque c'est aujourd'hui que la justice française va se pencher sur les 4 offres de reprise pour Aigle Azur. Et c'est également aujourd'hui que XL Airways va demander être placé en redressement judiciaire après avoir arrêté de vendre des billets depuis jeudi soir dernier. La semaine commence mal également du côté des indicateurs macroéconomiques avec des PMI très mal orientés. En France, le secteur privé est resté en croissance en septembre, mais au rythme le plus faible depuis 4 mois. Et puis en Allemagne, là, c'est une nouvelle inquiétante de plus pour l'état de santé de l'économie, puisque le secteur privé est entré en contraction pour la première fois depuis avril 2013, principalement à cause de l'industrie. Au total, le secteur privé en zone euro est resté en croissance en septembre, mais à son niveau le plus bas depuis juin 2013. Et puis en gros mois maintenant de la date théorique du Brexit, le secteur automobile européen est plus que jamais mobilisé contre les conséquences d'une sortie sans accord. Ce serait un séisme, d'après les constructeurs européens, qui évalue à 5,7 milliards d'euros le surcoût des droits de douane et à 54 700 euros le coût d'une minute d'arrêt pour une usine automobile britannique en mode de production juste à temps. Et puis sur le front politique du Brexit, le Labour, donc les travaillistes, sont réunis en congrès depuis le week-end dernier. Ils doivent arrêter aujourd'hui leur position sur le Brexit. Jeremy Corbyn, leur leader, promet d'organiser un nouveau référendum s'il devient Premier ministre, mais il ne dit pas encore à ce stade s'il souhaite rester ou sortir de l'Union européenne. Dans le reste de l'actualité, l'actualité internationale, bien sûr, vous le disiez Edwige, est dominée cette semaine par la 74e Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre demain. Des dizaines de chefs d'État se retrouvent dès aujourd'hui pour un sommet sur le climat, mais ce sera sans les États-Unis, le Brésil ou encore l'Australie. Des pays comme la Chine, l'Inde ou encore la France et l'Allemagne devraient annoncer en revanche leur intention d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Dans l'actualité des entreprises, Deutsche Bank annonce qu'elle va transférer à BNP Paribas une partie de ses activités de courtage. Concrètement, près de 1000 emplois vont quitter la banque allemande pour grossir les rangs de BNP. Ce transfert est soumis maintenant au feu vert des autorités de la concurrence. Les autorisations sont attendues d'ici à la fin de l'année. Et puis pour finir, 10 ans après le scandale, c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès du Mediator, l'antidiabétique, tenu pour responsable de plus de 1500 morts et de milliers d'autres victimes. Les laboratoires Servier et l'Agence nationale de sécurité du médicament vont être entendus pendant plus de 6 mois. BFM Business, il est midi 3. On file sur les marchés à la mi-journée. Le CAC 40 est dans le rouge. On abandonne quasiment 1% à 5634 points. L'euro-dollar, quant à lui, cède aussi du terrain. On abandonne 0,33%. 1 euro s'échange pour 1,0980 $. On est sous le dollar 10.
Merci Thomas. Bien sûr, on se retrouve à 12h30. Notre invité à suivre, Pascal Boniface, directeur fondateur de l'IRIS. On va parler des risques géopolitiques. Est-ce que ça va enfin peut-être se calmer?
BFM Business, midi, leur H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Vous publiez Atlas des crises et des conflits, tiens. Je l'ai sous mon nez avec Hubert Védrine. C'est un livre que, c'est la combienième édition? Quatrième édition. J'ai envie de dire, j'espère que vous avez une mise à jour permanente, parce que ça n'arrête pas en ce moment.
Alors, il y a des données structurelles, mais ça change. Il y a des conflits qui, heureusement, peuvent s'éteindre. D'autres qui ressurgissent. Et effectivement, on essaye dans cet Atlas à la fois d'expliquer les causes anciennes, historiques, et puis les causes plus récentes. pour essayer de deviner un peu quels sont les scénarios.
Pascal Boniface, je vous le disais, Emmanuel Macron est à New York, il y a 60 autres dirigeants, pas Donald Trump, hein, qui a beaucoup de choses, beaucoup mieux à faire, en tous les cas, c'est ce qu'elle a expliqué, pour ce sommet sur l'urgence climatique. Question que je posais ce matin à Pascal Lamy, l'ancien patron de l'OMC, ça sert à quelque chose, ces grands sommets, ou pas, il faut des mesures concrètes, en tous les cas, c'est ce que souhaite Emmanuel Macron.
Et ce que souhaite Antonio Guterres, qui a demandé aux États de ne pas venir faire, aux chefs d'État, de ne pas venir faire des discours, mais d'annoncer des mesures concrètes, et on peut espérer que ce soit le cas, mais surtout, ça sert toujours de mobiliser les opinions et de faire un peu un rapport de force, parce qu'on voit qui est absent. Qui est absent, effectivement, Trump, Bolsonaro, le Premier ministre australien. Et donc, ça sert quand même un peu, dans le rapport de force sur l'état de l'opinion publique mondiale, c'est quand même utile.
Oui, c'est utile, mais en même temps, il y a la COP21, j'ai envie de dire, avec un accord de Paris. Déjà, il n'est même pas respecté. Personne ne le respecte, y compris la France. Donc, vous voyez.
Oui, mais qu'est-ce que ça serait si l'accord de Paris n'avait pas été signé? Il vaut mieux, on sait très bien, si je prends l'exemple du code de la route, il est parfois violé, mais il faut mieux qu'il existe plutôt qu'il n'existe pas. Et je pense que dans un monde un peu compliqué dans lequel nous sommes, qu'il y ait des règles agréées partout, c'est quand même important. Sauf qu'évidemment, comme vous le remarquez, on est passé d'un accord de la communauté internationale en décembre 2015 sur l'accord de Paris, un des accords profonds, puisque deux pays quand même extrêmement importants, comme les États-Unis et le Brésil, disent ne plus vouloir respecter cet accord.
Cette émission, Emmanuel Macron a dit au journal Le Monde, il faut être très prudent dans l'attribution des responsabilités sur les attaques en Arabie Saoudite. Donc, ça veut dire quoi? Les experts français sont envoyés sur les installations.
Ça veut dire surtout qu'Emmanuel Macron appelle au calme et essaye d'éviter une escalade dont les conséquences seraient très fortement non maîtrisables, incalculables. Et s'il y avait, comme le poussent certains, une riposte sur l'Iran, l'Iran ne s'arrêterait pas là. Donc il est vraiment temps de se mettre autour de la table, de réfléchir, de négocier, d'essayer de sortir de cette crise, parce que là il y a effectivement une accentuation de la crise. Et surtout la grande nouveauté, c'est qu'on a vu que l'Arabie Saoudite, que l'on croyait être quand même une puissance militaire importante du fait de leur budget militaire, et finalement était très fragile par rapport à ce type d'attaque. Donc il vaut mieux effectivement ne pas se laisser emporter par une série d'actions et de réactions qui pourraient être complètement immaîtrisables.
Oui, Boris Johnson, lui aussi qui est immaîtrisable, dit lui c'est bon, c'est sûr que c'est l'Iran qui est derrière.
Il y a quand même de fortes convergences pour penser que l'Iran ou des alliés de l'Iran sont là. Et en tous les cas, si on pose la question à qui profite le crime, c'est l'Iran qui sort vainqueur, puisque son ennemi le plus important, l'Arabie Saoudite, qui est très active pour avoir un changement de régime, eh bien on a vu qu'il est finalement très fragile. Et que Mohamed Ben Salman, l'homme fort du régime saoudien, va être mis en cause, puisque les membres de la famille royale vont quand même lui dire « ta politique que tu juges MBS, moderne, mais qui est finalement aventuriste, nous met en difficulté parce que quelle est la source de légitimité de l'Arabie Saoudite dans le monde? C'est son pétrole. Et si son pétrole n'est pas garanti, et surtout si on voit qu'il n'y a peut-être pas une garantie automatique des États-Unis par rapport à la protection de l'Arabie Saoudite, puisque Donald Trump a dit qu'il voulait éviter la guerre, et donc il n'y a pas une garantie absolue des États-Unis sur l'Arabie Saoudite, ça remet en cause beaucoup de schémas préétablis.
Est-ce que pour vous, c'est quand même le principal risque aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui. Oui. Bon, il y a bien sûr toujours la Corée du Nord, mais c'est un risque que l'on connaît, qui est maîtrisé.
Oui, mais c'est moins d'impact sur l'économie mondiale, en l'occurrence.
Et puis, bien sûr, une guerre nucléaire serait complètement catastrophique, mais on sait très bien que les acteurs de ce conflit et de cette crise, même si des fois ils insistent un peu, sont finalement, ne franchissent jamais la limite de ce qui serait complètement inarrêtable. Mais, et là, effectivement, on a beaucoup parlé d'une guerre par accident dans la région, quand il y a eu l'arraisonnement de bateaux par les Iraniens. Et donc là, quand même, on est monté d'un cran avec viser des installations qui étaient quand même au cœur de la puissance saoudienne et qui ont tout d'un coup fait stopper la moitié de la production saoudienne et 5% du coup de la production mondiale de pétrole.
La question quand même, je m'arrête un instant sur l'Iran parce que je trouve que c'est très compliqué de comprendre ce qui se passe vraiment, parce que certains disent c'est Rouhani qui est déstabilisé en l'occurrence parce qu'il est trop moderne, derrière il y a les religieux dit donc ça veut dire qu'il faut que l'Occident le soutienne pour permettre cette ouverture en Iran. Il y a d'autres qui disent absolument le contraire. Vous, Pascal Boniface, vous connaissez quand même très bien toutes ces questions. Quelle est votre analyse?
Alors effectivement, le pouvoir iranien est divisé, court entre les radicaux et les plus modérés. Le pari des pays occidentaux, mais aussi de la Russie et de la Chine, était, en signant l'accord nucléaire le 14 juillet 2015, de donner une prime à Rouhani, en disant voilà, on te réintègre dans la communauté internationale, on va permettre à l'économie iranienne de se développer.
Mais là, c'est l'échec sur toute la ligne.
C'est l'échec, effectivement. Ouais. Et du coup, Rouhani est mis en cause par, notamment les gardiens de la Révolution, les passes d'Aran, qui dit ta politique de négociation avec l'Occident, elle n'a mené à rien, puisque finalement, on a cédé sur notre programme nucléaire et on a obtenu rien du tout en échange. Et d'ailleurs, la situation économique est bien plus grave aujourd'hui en Iran qu'elle ne l'était il y a 4 ans. Donc effectivement, en interne, Rouhani est mis en cause parce qu'il n'a pas délivré ce qu'il avait promis.
Oui, mais ce qui est paradoxal, c'est que cette politique de la terre brûlée vis-à-vis de l'Iran, elle est conduite évidemment par Donald Trump et les Américains. Oui. Donc, du coup, ça conduit à une radicalisation de l'Iran qui est limite ce que l'objectif inverse de la politique américaine, enfin, de ce qu'elle voudrait obtenir. Vous voyez, c'est là où on espèce de...
Oui, mais...
Il y a sans doute un jeu de go très diplomatique,
Trump
mais...
Trump réfléchit avant tout en considération de politique intérieure. Oui. Et donc, l'Iran est diabolisé aux États-Unis depuis la prise d'otage 79, après ses nombreuses déclarations négatives sur Israël, sur les États-Unis. Donc, ne pas céder sur l'Iran, c'est populaire. Et puis, effectivement, là, tout d'un coup, il voit qu'il y a un risque de guerre. Et Trump, s'il est brutal, n'est pas un va-t-en-guerre. Ça serait une erreur de penser qu'il souhaite la guerre, parce qu'il a très bien vu que les différentes interventions militaires auxquelles les États-Unis ont participé depuis la fin de la guerre froide ont été des échecs monumentaux qui ont coûté très cher. Et donc, il ne veut pas cela. Sa technique est plutôt finalement de contraindre, de faire un changement de régime par la contrainte économique, en essayant de déstabiliser et d'étouffer finalement financièrement aussi bien l'Iran d'ailleurs que on a le même raisonnement pour Cuba et pour le Venezuela.
Pascal Boniface, revenons aussi à ce qui nous préoccupe, il faut dire peut-être en premier chef, enfin même si ça c'est très important bien sûr, l'Europe avec le Brexit. Est-ce que vous avez rencontré le spin doctor de Boris Johnson? Il y avait des portraits là dans la presse anglo-saxonne et même française quand même qui montrent que mais qui est complètement, enfin, je veux dire, c'est vraiment le spin doctor dans toute sa splendeur. Dominic Cummings, vous l'avez rencontré?
Non, je ne l'ai pas rencontré, mais c'est un très bon scénario de film, et j'imagine que des producteurs de cinéma vont s'en emparer après. Parce qu'on a déjà quand même un Premier ministre qui est, disons, improbable avec Boris Johnson, qui n'est pas pour le moins classique en tous les cas, et son principal conseiller qui a son oreille semble tout à fait aussi
Boris Johnson au carré, oui.
Et effectivement, tout ceci n'est pas très rassurant, y compris avec une dégradation des relations entre la reine Elisabeth et son Premier ministre, ce qui, quand même, est plutôt rare.
Oui,
on a pu poser quand même...
Inédit.
Jamais on n'avait posé ça. On a quand même pu poser à Boris Johnson la question de savoir s'il avait ou non menti à la reine. Je crois qu'aucun Premier ministre britannique n'avait subi ce type de question auparavant.
Oui, c'est, parce que vous avez raison de le souligner, c'est la première fois que le royaume, entre guillemets, est aussi touché, impacté par les crises politiques britanniques, parce qu'il faudrait expliquer peut-être à nos auditeurs et téléspectateurs que David Cameron vient de publier, celui qui est à l'auteur de ce fameux référendum, vient de publier ses mémoires, et il dit que en fait, il aurait eu un petit coup de pouce de la reine d'Angleterre.
Il trahit la règle non écrite, mais qui est sacrée, c'est qu'aucun Premier ministre ne fait état des conversations qu'il a eues avec la reine ou le roi d'Angleterre. Et là, effectivement, s'ajoute à cela les extravagances de Boris Johnson, et puis un Parlement britannique qui est quand même la mère de tous les parlements, qui est le symbole même du régime parlementaire, qui est en crise profonde, qui a été ajourné, qui n'a pas réussi à se mettre d'accord, et ça fait maintenant 3 Premiers ministres que l'on use sans trouver un accord sur le Brexit.
Ouais. Vous faites un pari là pour le 31 octobre, deal ou not deal, Brexit, pas Brexit,
On se dirige tout droit vers un no deal, mais c'est tellement incertain, il y a tellement de lapins qui sortent au fur et à mesure du chapeau, là aussi qu'on ne sait trop comment faire cela. Mais Boris Johnson semble déterminé, sans que l'on sache s'il veut paraître déterminé, pour faire plier l'Union Européenne, avec toujours son pari de dire, si je joue au fou, j'obtiendrai quelque chose en plus. Sauf que les 27 ont montré qu'ils étaient unis pour dire non aux nouvelles exigences de Boris Johnson.
Parce qu'elle a mis lui encore, qui disait ce matin, de toute manière c'est un joueur de poker, faut pas l'oublier. Donc à la limite, moi je pense qu'il bluffe et qu'au dernier moment il va se passer quelque chose.
Il peut aussi perdre tout à fait la mise.
Alors, la grande question aussi, une question qui vous intéresse beaucoup, notamment dans votre atlas des crises et des conflits, Pascal Boniface, c'est est-ce qu'il fallait reprendre langue avec la Russie, ou pas?
Oui, ça me paraît être une évidence, même si beaucoup s'y opposent, y compris dans certaines instances de l'État. On ne peut pas rester comme cela sans relation. D'ailleurs, on avait des relations avec la Russie. Quel est un des défis stratégiques majeurs pour nous? C'est la Chine. Est-ce qu'on a intérêt à pousser la Russie dans les bras de la Chine?
C'est une vieille antienne qu'on entend, bien sûr. Oui. C'est commencé avec le général de Gaulle et même avant, en l'occurrence.
Mais c'est des fondamentaux qui restent vrais. De Gaulle n'avait pas tout à fait tort. Et en tous les cas, sur certains dossiers, nous sommes en désaccord avec la Russie. On est en désaccord sur l'Ukraine. On est en désaccord sur la Syrie. Mais sur d'autres dossiers,
sur
l'Iran, on est plutôt en accord. Et là, il y a une sortie de crise possible sur l'Ukraine, parce qu'il y a un nouveau président ukrainien qui cherche un accord avec la Russie. Et donc, il faut au contraire pousser les feux. On a les accords de Minsk qui n'ont pas été exécutés totalement, mais qui, au moins, ont évité le pire. Et là, ne pas profiter de cette nouvelle fenêtre avec un président ukrainien qui est prêt à faire quelque chose, parce qu'il veut montrer sa marque, alors que l'ancien était poussé à une rigidité extrême par rapport à la Russie, eh bien, ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter.
En résumé, en une minute, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, en 2020? C'est pour vous les points à surveiller, ça peut nous aider.
On aura toujours, effectivement, les surprises au Proche-Orient, et puis, pour moi, ce qui me paraît le défi stratégique majeur, c'est la relation Chine-États-Unis. Comment les États-Unis vont supporter la montée en puissance de la Chine, qui, à terme, menace leur place de première puissance mondiale? Les Américains sont la première puissance mondiale depuis 1945, ils auront du mal à accepter de devenir la seconde puissance mondiale.
Et donc, c'est vraiment pour vous, c'est au cœur. En plus, on voit bien, c'est au cœur de la croissance, enfin des.
Oui, c'est pas uniquement une question de taxation des produits, des exportations entre Pékin et Washington, c'est vraiment une question de suprématie mondiale.
Oui, ça, c'est le bras armé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous avez votre grand colloque, là, en l'occurrence, donc en fin de semaine, hein, je crois. Voilà, comme ça. C'est l'occasion de faire toujours un petit peu de pub.
Et géopolitique de Nantes, voilà.
L'Atlas des crises et des conflits, c'est chez Armand Collin avec Hubert Védrine. Merci d'avoir été avec nous dans un instant. Retour en France, à Paris. Il est en charge de la rénovation de l'Hôtel Dieu. Je reçois le promoteur immobilier Joachim Hazan. Et avec lui, on parlera justement des nouveaux bâtiments, comment on peut les construire dans le cadre, pour éviter le gaspillage de matériaux. On voit ça dans un instant. Et ensuite, c'est Roland Lescure, député de La République En Marche.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, il fait la transformation urbaine, notamment il s'occupe de transformer l'Hôtel Dieu, vous savez, ce grand hôpital qui est juste devant Notre-Dame de Paris, qui a suscité beaucoup de bagarres. Joachim Hazan, bonjour.
Bonjour Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous, vous êtes le président fondateur de Novaxia. Novaxia, groupe immobilier, il y en a beaucoup, vous me direz. Là, vous êtes vraiment spécialisé dans la transformation urbaine, justement, c'est de prendre des bâtiments, c'est pas les détruire, mais les transformer. C'est un peu votre savoir-faire. En deux mots, vous l'avez créé en 2007, 2 milliards de chiffre d'affaires, 55 salariés. Il y a beaucoup de questions à voir avec vous. L'Hôtel Dieu, d'abord, vous avez en charge la partie, la première partie, si j'ose dire. Il y a une partie qui va rester quand même hospitalière.
Tout à fait, effectivement. Donc Novaxia, c'est un groupe qui existe depuis 2007. Et nous, notre propos, c'est de transformer des bâtiments existants, de les réemployer, de les réutiliser. Tout comme des produits de consommation courante sont réutilisés, ben, les bâtiments aussi, il faut les réutiliser. Donc l'Hôtel Dieu, c'est un concours que nous avons remporté sur l'idée de conserver ce bâtiment, évidemment, de le réutiliser, de lui donner une nouvelle vie. Il y a 55 000 mètres carrés dans l'Hôtel Dieu et nous avons la charge de projeter dans l'avenir 20 000 mètres carrés sur les 55 000 mètres carrés, puisque 35 000 resteront un hôpital.
Oui.
Et nous attachons donc...
La partie qui donne sur la Seine, hein, pour ceux qui...
Voilà, la partie qui donne sur la Seine reste un hôpital et la partie côté parvis, c'est la partie que nous allons réhabiliter.
Alors justement, parvis Notre-Dame, toute cette polémique autour du plomb qui a fondu avec l'incendie, est-ce que ça décale les travaux? Est-ce que c'est compliqué pour vous? Est-ce que vous allez faire tester l'ensemble du bâtiment d'Hôtel Dieu?
Alors, Notre-Dame est notre voisine convalescente. Nous commençons les travaux sur l'Hôtel Dieu en 2023. Oui. Donc vous voyez qu'on a encore du temps d'ici 2023 pour déposer les autorisations administratives.
Oui, mais pour faire des examens, pour savoir si effectivement il y a une pollution, si ça nécessite une décontamination ou pas?
Alors, on fera toutes les investigations, mais on a devant nous 4 ans pour le faire, donc on est relativement serein par rapport à ça. L'urgence du chantier de Notre-Dame, elle, justifiait de se pencher sur le sujet dès aujourd'hui. Nous avons le temps devant nous pour le faire. Ouais.
Qu'est-ce que vous allez proposer? Qu'est-ce que vous allez faire?
Alors,
parce que c'est un lieu emblématique en soi, mais pour les Parisiens, j'ai envie de dire, il y a une directrice de la PHP des hôpitaux de Paris qui a sauté sur ce dossier. C'est pour vous dire que c'est un dossier qui est quand même très sensible.
Alors, c'est un sujet sensible. L'idée majeure, c'est que l'hôpital reste. L'idée majeure, c'est que nous avons remporté une concession de 80 ans. Sur ce site, nous ne l'achetons pas, c'est une concession. Et nous y installons 3 grands pôles, donc dans les 20 000 mètres carrés. On va installer un pôle incubateur, le plus grand incubateur sur des métiers des start-up de santé en Europe, 10 000 mètres carrés. Une centaine de start-up qui seront un pôle coworking, un pôle incubateur, un deuxième pôle solidaire, avec notamment une maison des patients, une maison de handicap et une résidence étudiante sociale.
Combien de places ?
Ça sera une centaine d'hébergements. Et nous avons un pôle commerce et restauration, qui est un troisième pôle, donc attractivité. Donc trois grands pôles dans l'Hôtel Dieu, avec quand même un projet de longue haleine, puisque l'idée, c'est une ouverture en 2025. Donc c'est des sujets sur lesquels il faut beaucoup de patience.
2025, ça sera donc... Après, juste après, normalement, selon le calendrier macroniste de la nouvelle Notre-Dame, en l'occurrence.
Tout à fait, c'est l'objectif.
Ouais. Et si jamais Notre-Dame est retardée, la rénovation de la Notre-Dame, est-ce que vous allez décaler la rénovation de l'Hôtel Dieu, enfin, en tous les cas, son ouverture ?
Non, ce qu'on pourra être amené à faire, c'est évidemment avoir des liens de proximité avec notre voisine Notre-Dame en mettant quelques locaux à disposition. Mais les sujets sont distincts, puisque l'Hôtel Dieu, il a son calendrier, Notre-Dame a son calendrier, c'est deux sujets qui se relient sur le parvis mais qui sont tout à fait étanches.
Oui, enfin étanches, à mon avis c'est quand même compliqué quand on a quand même quelque chose d'aussi incroyable que Notre-Dame juste devant, devant son bâtiment. Donc ça, à mon avis, c'est forcément lié quand même, Joachim Mazan.
Elle est tout à fait incroyable, Notre-Dame, je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, je dis juste qu'en point de vue chantier, 2025, ça devrait être bon pour quand, en termes de calendrier.
Alors justement, on parle beaucoup d'économie circulaire, on parle beaucoup de gaspillage, on en parle évidemment dans tout ce qui est alimentation, déchets, retraitement des déchets. Vous, en fait, ce que vous dites, c'est aussi important et aussi fort dans mon métier, dans le métier de promoteur immobilier. En quoi ? Sans faire du marketing, quoi, sans faire de la com.
Alors déjà, moi j'ai monté cette société, Novaxia, est née de l'idée que réduire, réutiliser, recycler, l'économie circulaire, la définition des trois grands R, c'était un levier de création de valeur. Et on voit aujourd'hui que les mentalités, elles évoluent, mais surtout, on voit que ça correspond à une attente des collectivités locales et une attente des investisseurs. Je vous donne quelques grands chiffres, peut-être.
Des chiffres et des exemples, alors, qu'on comprenne bien que c'est une réalité.
En 2007, Novaxia est née de cette idée que transformer des bâtiments vides de bureaux en logements, c'était un outil de création de valeur, et que l'obsolescence, plutôt que d'être un inconvénient, était un avantage. L'obsolescence, c'est un levier de création de valeur. Je vous donne quelques exemples très concrets. Nous avons transformé à Paris, dans le 14e arrondissement, des bureaux obsolètes en logements, en 84 logements et une crèche. Là où c'était situé, il n'y avait plus lieu de faire du bureau, plutôt que de démolir. Et le premier acte écologique, pour Novaxia, démolir.
C'est la grande tendance, pour ça que je vous ai demandé de venir ici. La grande tendance aujourd'hui de
conserver.
On ne démolit pas, on conserve l'existant.
Alors,
et ben, on réaménage évidemment.
Alors exactement, conserver, pour moi, c'est le premier acte de résistance écologique plutôt que de démolir. Et là, je pense que je vais vous donner un exemple qui est relativement parlant. Nous avons été lauréats d'une consultation pour l'hôtel du département du 92, des Hauts-de-Seine. Un bâtiment qui fait 40 000 mètres carrés. Un bâtiment qui, objectivement, pas très joli. Tout le marché, tous les acteurs voulaient le démolir. Et nous avons fait le choix de le conserver. Donc nous avons proposé avec des architectes de déshabiller les façades pour le conserver. Concrètement, ça change quoi finalement, ce que je vous raconte, de le conserver plutôt que de le démolir? Mettez 96 000 personnes dans un grand avion, vous leur faire faire Paris-Barcelone en aller-retour, en classe éco, ils sont bien serrés. 96 000 personnes dans un avion, Paris-Barcelone. C'est l'équivalent de l'économie d'émissions de gaz à effet de serre que nous avons fait en conservant le béton, en conservant cet immeuble, plutôt que de le démolir.
Oui, donc c'est la ville de Nanterre. Il faut recycler en l'occurrence les matériaux, quoi.
Recycler les matériaux, il faut les éco-concevoir. Le sable, c'est un grand sujet. Vous savez que pour faire du béton, il faut du sable. Du sable et du ciment. Sauf que le sable, c'est un matériau qui n'est pas renouvelable. Le sable ne pousse pas, contrairement au bois. Contrairement à d'autres matériaux, le bois, lui, est renouvelable et en plus, il capte le CO2 lorsqu'il est planté. Donc, c'est aussi pour ça que nous avons fait, par exemple, dans Paris, nous sommes en train de construire une auberge de jeunesse dans Paris, dans le 20e arrondissement, avec une ossature bois. Et pour des raisons évidentes de réduire.
En même temps, on parlait d'amiante aussi. On sait qu'il y a beaucoup de bâtiments, de vieux bâtiments qui ont été construits dans les années au lendemain de la guerre et qui sont il faut mieux les recycler. Enfin non, faut mieux ne pas recycler en l'occurrence leurs matériaux. Vous êtes confronté à ça, j'imagine.
Régulièrement.
Oui.
Mais justement le sujet, quoi qu'il arrive, que vous démolissiez ou que vous transformiez, l'amiante, il faut la retirer au préalable. Donc c'est un préalable nécessaire. L'enjeu, c'est que recycler, réutiliser les matériaux, ça va devenir la norme. Nous, ça fait 13 ans qu'on a cette approche de transformation. Par exemple, le béton aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent de le louer plutôt que de l'acheter. On est culturellement, et c'est ça le grand sujet, c'est les mentalités qui doivent évoluer. Pour pouvoir faire de l'économie circulaire, il faut deux grandes jambes. Évolution des mentalités, expertise. Expertise chez Novaxia, nous l'avons. Les mentalités, la loi va les faire évoluer, mais on observe aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que les mentalités sont d'ores et déjà en train de changer. Si nous avons 50% de croissance par an, c'est pas par hasard. C'est que les collectivités locales, les mairies, lorsqu'elles choisissent
Elles
choisissent plus uniquement le montant du chèque qui va leur être attribué. Il y a quelques années, c'était le cas. Ouais. On choisissait pour un bâtiment celui qui allait offrir le montant le plus élevé pour acheter le bâtiment. Aujourd'hui, il y a deux domaines, le développement durable et l'économie, ça marche ensemble.
Choqui Massin, deux questions sur l'Hôtel Dieu, mais parce que c'est emblématique, c'est une manière aussi de voir. D'abord, financement un peu particulier, un montage particulier, c'est comme ça aussi que ça fonctionne, la promotion immobilière, vous versez un chèque qui correspond à l'ensemble des loyers qui vont être perçus.
Alors, déjà, si vous me permettez de rétablir quelque chose, moi j'aime pas définir Novaxia comme un promoteur. Je préfère le définir comme un rénovateur ou comme un investisseur, puisque derrière l'idée de promotion, il y a très souvent l'idée de démolition. Et donc, mais je réponds, pardonnez-moi cette petite parenthèse, je réponds à votre question. Sur l'Hôtel Dieu, effectivement, l'idée aujourd'hui, vu les prix du foncier, le prix du mètre carré.
Vous imaginez si on l'avait détruit pour faire des tours, là, ça veut dire c'est le jackpot. Non, mais évidemment, heureusement, c'est pas possible.
Alors, heureusement, déjà, ça n'est pas possible. Oui. Et deuxièmement, pour moi, l'Hôtel Dieu, il appartient à tous les Parisiens. Il appartient, c'est un patrimoine, municipal, sauf qu'il est, aujourd'hui, il avait besoin de gros travaux de rénovation. Et le modèle qui a été utilisé pour l'Hôtel Dieu, c'est un bail à construction. Qu'est-ce que ça veut dire, un bail à construction? C'est un bail, donc ça se loue, à charge pour le preneur de transformer, de réhabiliter. Et dans 80 ans, l'APHP, donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris, redeviendra propriétaire du bâtiment que nous aurons rénové et qui reviendra dans le patrimoine de l'APHP. C'est aussi ça l'idée face à cette hausse du foncier. Trouvons des idées innovantes, audacieuses.
Et juste une petite question en 30 secondes. La politique du taux bas, là, qui est peut-être formidable pour les emprunteurs, mais en même temps, on voit bien que la complexité, pour vous, c'est plutôt un plus ou c'est plutôt un danger?
Mais les taux bas, ils favorisent le fléchage de l'épargne vers l'immobilier. Nous avons chez Novaxia 10 000 investisseurs. Ces 10 000 investisseurs, quand ils placent leur argent à la banque, ils ont un rendement qui est négatif. Donc justement, au contraire, ça nous permet d'avoir un flux d'épargne satisfaisant.
Donc plutôt positif. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été avec nous. Vous reviendrez pour peut-être avant l'inauguration, vous me direz, mais c'est dans, comme dans longtemps. Joachim Mazan, le patron de Novaxia, était notre invité. Dans un instant, c'est Roland Lescure, il est député de la République En Marche d'Amérique du Nord. Il est président de la Commission des Affaires Économiques. Avec lui, on va parler budget, retraite, beaucoup de sujets. C'est à suivre.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Il vient d'installer, il est avec nous, Roland Lescure, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, donc président de la Commission des Affaires Économiques à l'Assemblée Nationale. On va parler de quoi? Du marronnier, comme vous le disiez à l'instant, de budget. Mais pour l'instant, Thomas Asportas pour le rappel des titres.
Et c'est officiel depuis ce matin, Thomas Cook est en faillite. L'entreprise n'a pas réussi à trouver ce week-end les fonds nécessaires pour poursuivre son activité. La plus vieille agence de voyage au monde laisse maintenant derrière elle une ardoise de 1,7 milliard de livres et 22 000 emplois sont menacés. Et pour ce qui est des touristes, eh bien Thomas Cook va devoir gérer maintenant le rapatriement de 600 000 voyageurs, dont 10 000 rien que pour Thomas Cook France, la filiale française du voyagiste qui précise qu'elle n'est pas en situation d'insolvabilité immédiate. Dans les autres pays, ce sont 150 000 Britanniques et 140 000 touristes allemands qui sont actuellement en vacances via Thomas Cook. C'est par ailleurs une journée très difficile qui attend aussi les compagnies aériennes françaises, puisque c'est aujourd'hui que la justice se penche sur les 4 offres de reprise pour Aigle Azur, et c'est également aujourd'hui que XL Airways va demander à être placé en redressement judiciaire après avoir arrêté de vendre des billets depuis jeudi soir dernier. dernier. Et puis pour finir, la semaine commence mal également du côté des indicateurs macro avec des PMI très mal orientés. En France, le secteur privé est resté en croissance en septembre, mais à son rythme le plus faible depuis 4 mois. Et en Allemagne, là, c'est une nouvelle inquiétante de plus pour l'état de santé de l'économie puisque le secteur privé est entré en contraction pour la première fois depuis avril 2013 et principalement à cause du recul de l'industrie. Au total, le secteur privé en zone euro est resté en croissance en septembre, mais à son niveau le plus bas depuis juin 2013. BFM Business, il est 12h32, je vous redonne le CAC à la mi-journée qui abandonne 0,92% justement à cause de ses PMI et qui est maintenant à 5638 points. L'euro dollar, quant à lui, cède aussi un peu de terrain, moins 0,31%, 1 euro s'échange toujours sous le dollar 10, 1 euro pour 1,0980.
Merci Thomas. À suivre, Roland Lescure, donc député La République en marche d'Amérique du Nord et président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. On va parler du budget 2020, puis on parlera aussi des compagnies aériennes. Est-ce que l'État peut faire quelque chose? À tout de suite.
C'est moi.
Entre, je suis en haut.
Oh, mais dis donc, il fait pas chaud ici. Vous avez pas mis le chauffage?
Si, mais c'est plein de courant d'air.
En même temps, t'as vu tes fenêtres Velux? Elles ont vécu, non?
T'as raison, elles ont au moins 25 ans. On devrait les changer, mais me retrouver des semaines avec un trou dans le toit, pff, merci.
Mais non, nous, on l'a fait, ça nous a pris. Allez, une journée à tout casser. Après, ça change la vie. Et tu feras des économies d'énergie. En plus, notre installateur nous a proposé de remplacer l'ancienne fenêtre Velux par deux nouvelles. La chambre d'ado de Mathieu est devenue un super bureau baigné de lumière.
Et il en pense quoi, Mathieu?
On parle pas, il veut revenir.
Retrouvez toutes les solutions pour votre projet et profitez dès maintenant de notre offre sur velux.fr.
La FIAC est une foire. La FIAC, c'est 200 galeries internationales d'art moderne et contemporain et du design rassemblées au Grand Palais, originaires de 29 pays et 70 villes. La FIAC, c'est aussi FIAC Projects, des sculptures, des installations au Petit Palais et sur l'avenue Winston Churchill. La FIAC est hors les murs, place Vendôme, au Jardin des Tuileries, au Musée de la Croix et place de la Concorde. La FIAC est aussi un festival avec des performances, des films et des conversations. La FIAC est à Paris du 17 au 20 octobre avec BFM Business.
Hey, oui, oui, vous, là, dans la voiture. Vous le voyez comment, l'avenir de l'enseignement en Picardie? Pour imaginer l'enseignement de la Picardie de demain, le Courrier Picard vous propose Picavenir. Picavenir, c'est la nouvelle plateforme participative qui donne vraiment la parole à tous les Picards sur un nouveau thème chaque semaine. Rendez-vous dès maintenant sur picavenir.fr pour poser un regard différent, le vôtre, sur la Picardie de demain. Courrier Picard, l'actu nous rapproche.
Intermarché vous propose d'écouter un événement exceptionnel.
Les petits Jean-Pierre, Claude et Bernard sont attendus par leur épouse en caisse centrale, merci.
C'est la foire au vin chez Intermarché. Des centaines de crus sélectionnés par nos experts œnologues avec en plus 10% en avantage carte dès 50 euros d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Jusqu'au 29 septembre, modalité magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité Roland Lescure, La République En Marche, président de la Commission des affaires économiques. Roland Lescure, merci d'être avec nous parce que là vous êtes un peu le début, mais enfin quand même ça commence à courir vite du marathon budgétaire.
Oui.
Avec le budget 2020, il y a déjà pas mal d'informations qui sont sorties ici ou là. Vous allez peut-être nous les infirmer, nous les confirmer. J'ai peut-être d'abord une question parce qu'on demandait un petit peu quel climat régnait au sein de votre groupe parlementaire. Vous, la PMA, vous êtes pour ou vous êtes contre?
Moi, je suis pour et je la voterai du coup la semaine prochaine. Elle va être examiné cette semaine en hémicycle et un vote mardi prochain et je voterai pour.
Il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas le même sentiment, que ce soit
j'ai
aussi
pas l'impression,
que vous.
Moi j'en parle avec certains de mes collègues, globalement je trouve que la majorité est plutôt très majoritairement pour, surtout évidemment on l'a dit, les débats se sont très bien passés, on est dans des débats pacifiés par rapport à des débats qu'on a connus sur le mariage pour tous et autres. Je pense que c'est un sujet important, c'est un sujet complexe qu'on traite à la fois en commission, en hémicycle de manière apaisée, j'espère. Il y a plus de 2000 amendements, donc il y aura peut-être un peu de spectacle cette semaine, mais globalement je trouve qu'on a très bien éclairé le débat et que les gens voteront en conscience et à mon avis majoritairement pour.
Alors le budget 2020, en l'occurrence, parce qu'on a appris donc par les informations, des fuites comme on dit dans la presse, qu'il y a des coups de rabot sur les avantages des personnes âgées, en l'occurrence pour celles qui ont plus de 70 ans, sauf celles qui sont en perte d'autonomie. Est-ce que c'est vraiment le moment de faire ça? Je veux dire, il y a déjà la réforme des retraites qui inquiète, même si ça ne va pas évidemment impacter les gens qui ont plus de 70 ans, mais est-ce que ça sert vraiment à faire quelque chose? Tout ça c'est pour économiser combien 200 millions d'euros quoi.
200 millions, c'est pas un petit ruisseau, et les petits ruisseaux font la grande rivière. On est aujourd'hui dans une optimisation des dépenses, où on essaye d'être efficace et de s'assurer que les dépenses publiques vont à ceux qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, un retraité de 71 ans en pleine forme qui a un jardinier, c'est 100% d'exonération de charges. On souhaite que pour les gens qui ont plus de 70 ans, on va continuer à avoir des exonérations de charges, mais qui ne seront pas plus importantes.
Mais si c'est
que...
quelqu'un qui l'aide à nettoyer sa cuisine, à faire le ménage chez lui.
Il y aura des exonérations de charges. Tout comme aujourd'hui une mère célibataire qui prend une garde d'enfants à domicile a des exonérations de charges, elles ne seront pas entières. Et par ailleurs, pour ceux qui ont effectivement plus de 70 ans et qui sont dans des vrais enjeux d'autonomie, là, on gardera l'exonération à 100%. Donc, on ne rabote pas, on ne supprime pas, on rend les aides plus efficaces. Je vais vous donner un autre exemple très concret, les aides personnalisées au logement, les fameuses APL.
Ouais.
Aujourd'hui, vous êtes étudiant, 2 ans après, vous trouvez un job, vous êtes journaliste à BFM Business, vous continuez à bénéficier des APL qui sont basées sur votre situation il y a 2 ans.
Ben non, mais c'est plus le cas maintenant.
Ben, ce sera plus le cas à partir du budget 2020. Ouais. Donc, c'est ça, rendre les aides plus efficaces. À l'inverse, là encore,
oui, enfin, je vois pas un retraité de 70 ans qui fait, peut-être qu'il a la chance d'avoir un jardin, enfin, il n'y en a pas 40 000 hein, qui ont des jardins.
Ah, très bien.
Il y en a d'autres qui en ont besoin de ces aides. Enfin, je veux dire, est-ce que, on a l'impression que c'est un peu, toujours taper un peu sur
les
vieux.
Non, l'idée, c'est pas, c'est de taper sur personne d'abord. C'est d'être efficace dans la dépense publique. Vous savez qu'on a la dépense publique la plus importante du monde.
Ça, c'est sûr.
Donc, il faut s'assurer que chaque dépense est efficace au sens.
Donc, il y a beaucoup de jardiniers en France, c'est ça que vous dites, en fait.
Non, mais c'est pas seulement
des jardiniers. Non, mais parler d'efficacité, donc ça veut dire que, enfin, si vous
voulez
que ça
soit efficace,
il y a beaucoup de gens qui emploient un jardinier.
Non, mais jardinier, aide à domicile, cuisinier, vous l'avez dit. Si vous êtes en pleine possession de vos moyens à 71 ans et que vous avez un cuisinier qui vient vous faire les repas, vous continuerez à avoir des exonérations partielles de charges, de la même manière qu'on en a aujourd'hui pour les femmes de ménage et les aides à domicile, de garde d'enfants, etc. Vous n'aurez pas 100%. Le 100%, comme pour la sécurité sociale d'ailleurs, c'est pour les gens qui en ont le plus besoin. Et évidemment, les personnes en situation d'autonomie continueront à en bénéficier pleinement.
Est-ce que c'est pas quand même agiter un chiffon rouge? Enfin, je...
Non, mais à chaque fois qu'on...
On voit bien depuis ce matin, c'est un peu les mois. Non, mais... Est-ce que c'est le moment de...
Quand, voilà, quand vous faites des économies budgétaires, forcément, vous faites des mécontents. Donc il faut qu'on explique pourquoi on le fait, il faut que les gens comprennent qu'on ne cherche pas à punir qui que ce soit, mais qu'on cherche bien à être efficace de manière à ce que l'argent public soit bien dépensé. La réforme des retraites, c'est pareil. On fait des réformes de profondeur qui sont importantes, qui sont historiques, mais qui évidemment affectent de manière négative des catégories qui ont tendance à se plaindre un peu plus fort que ceux qui bénéficient ont tendance à nous féliciter. Ça fait partie du jeu.
Alors... Vous êtes d'accord, surtout ici, j'imagine qu'il faut créer son entreprise, que c'est en tous les cas, c'était partie du discours d'Emmanuel Macron. Il fallait créer son entreprise et inciter justement à prendre sa vie, j'ai plus l'expression exactement en tête, mais prendre sa vie en main.
Oui.
Et en même temps, là, vous allez raboter sur les avantages fiscaux liés aux micro-entrepreneurs.
Oui, alors.
C'est pas un peu de discours?
Non, les micro-entrepreneurs, c'est un statut particulier qui permet de créer une petite entreprise. Si vous êtes, là encore, prof de yoga, vous faites de la cuisine ou autre, sur des revenus très faibles. On a des revenus, maximum de 100 ou 120 000 euros par an. Et il y a des exonérations de charges très importantes. On va les réduire, là encore, parce que il y a...
Elles viennent d'être instaurées, on est bien d'accord.
Non, le dispositif date d'il y a maintenant quelques années.
Oui,
on l'avait étendu, on avait augmenté le revenu qui permettait d'avoir accès à ces aides.
Exactement.
On va continuer à avoir des aides. Mais vous avez un certain nombre de ce qu'on appelle d'effets d'aubaine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en profitent de manière peut-être un peu exagérée, ce qui crée d'ailleurs des enjeux du côté des entrepreneurs, qui eux ne sont pas micro-entrepreneurs, mais entrepreneurs tout court.
Oui,
par exemple, dans le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, vous avez plein d'entrepreneurs du bâtiment qui viennent me voir, quand je vais en province, les rencontrer, qui me disent le statut des micro-entrepreneurs, c'est une concurrence trop forte face à nous. C'est-à-dire que quand vous décidez de refaire votre plomberie le dimanche, soit vous faites appel à un micro-entrepreneur qui peut être un plombier à la retraite, soit vous faites appel à une entreprise du bâtiment de plomberie certifiée. Et il y a aujourd'hui, au sein du secteur du bâtiment, pour reprendre cet exemple, des gens qui se plaignent de cette concurrence déloyale. Il faut trouver l'équilibre. Il faut à la fois... Des artisans. Il faut qu'on puisse garder ce système qui permet de mettre le pied à l'étrier à des gens qui s'installent, tout en évitant qu'on ait la concurrence déloyale.
Donc tout ça, c'est fait essentiellement pour le bâtiment, pour satisfaire la Fédération des artisans, depuis longtemps, et parfois à juste titre, disent...
Je ne sais pas, là encore, si ceux qui sont satisfaits de nos mesures s'en féliciteront. ceux qui le sont moins s'en plaindront sans doute. Mais à chaque fois qu'on a une aide publique, il faut qu'on se demande, tous les jours, tous les ans, à chaque budget, oui, à chaque marronnier,
est-ce que cette aide... Enfin, on a l'impression que c'est quand même assez utile, puisque la preuve, c'est que ça cartonne. Mais oui, mais donc ça veut dire que ça marche. Et en plus, on fait des allers-retours. Je croyais qu'on faisait plus d'allers-retours fiscaux.
Edwige Chevrillon, je suis persuadé que ce système restera très efficace et très populaire. On limite l'avantage qui aujourd'hui apparaît après un bilan d'évaluation un peu trop avantageux, c'est le cas de le dire.
C'est Bercy qui a fait l'évaluation ?
Ben, on fait de l'évaluation, il y a des évaluations parlementaires sur tous les dispositifs qui sont en cours également.
On avait dit qu'on n'avait pas trouvé d'autres niches fiscales.
Bah si, il y a le gazole routier qui va aussi être affecté, il y a 18 micro-taxes qui vont être supprimées. C'est vraiment du toilettage qu'on fait tous les ans, année après année, pour simplifier le dispositif fiscal et s'assurer que le dispositif d'aide, vous avez dit, il y en a beaucoup en France, est aussi efficace que possible. Les deniers publics, ça se trouve pas sous les pieds d'un cheval. Il faut être très prudent dans la manière dont on les dépense. C'est ce qu'on fait à Bercy, aux affaires sociales et dans tous les ministères.
Il manque encore combien pour boucler le budget ?
A priori, il manque 24 heures puisqu'il sera présenté mercredi. Oui, donc, à mon avis, il est bouclé. On aura une baisse d'impôts, vous le savez, qui a été annoncée par le président de la République. 5 milliards l'année prochaine, 20 milliards sur 3 ans. Sur le quinquennat, on aura fait 27 milliards. On va avoir un déficit public qui va être limité. 2,1-2,2%. Ça fait 4 ans de suite qu'on est dans les critères de Maastricht. Ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas vu ça. Et par ailleurs, on va stabiliser la dette publique. Tout ça, c'est compliqué quand même. Ça a l'air simple de dire trois chiffres comme
ça. Non, c'est pas simple du tout. Parce que donc, nous, les économies sur, sur l'État, sur le fonctionnement de l'État, on les attend toujours. Hein, comme vous, j'imagine, Roland Lescure.
Alors, on en a fait.
On en a fait, à la marge.
Mais il y a encore de la marge, je suis d'accord, mais c'est très compliqué. Pourquoi ?
À la marge.
Non, mais c'est ça. Et vous disiez. Coup de rabot. En fait, ça fait 20 ans qu'on gère l'administration française à coup de rabot. Il faut maintenant...
C'est pour ça que je trouve que c'est un peu contradictoire avec tout ce que vous avez expliqué, Emmanuel Macron.
Ce qu'il faut qu'on change, et on est en train de le faire. Thomas Cazenave l'a fait dans le cadre de ses fonctions. On a beaucoup glosé sur l'histoire de l'appli du président qui permet de mesurer l'efficacité des ministres, mais accessoirement aussi l'efficacité de l'action publique. Il faut qu'on s'attaque au fonctionnement en profondeur de l'action publique.
Mais ça, on est complètement d'accord. C'est exactement ce que disait, encore une fois, le président en disant il y en a marre de la politique des rabots, il faut arrêter des coups de rabot. Et là, les deux mesures qu'on a apprises ce matin, c'est ce qu'on appelle des coups de rabot.
C'est vraiment de l'efficacité.
C'est le prototype du coup de rabot.
Non, le coup de rabot, c'est vous allez voir un ministre, vous lui dites, trouvez-moi 100 millions, débrouillez-vous.
Ben là, c'est ça, on lui a dit, trouvez-moi 200 millions.
On regarde les aides les unes après les autres et on dit, quelle est la manière la plus efficace d'aider le logement social, d'aider l'emploi, d'aider l'entrepreneuriat.
C'est pas plus efficace d'aider la micro-entrepreneur que de lui supprimer les avantages fiscaux.
On va continuer à le faire, et on va limiter l'avantage qui est aujourd'hui trop avantageux.
Oui, mais donc, là, c'est pas fait pour aider efficace vis-à-vis des micro-entrepreneurs.
Écoutez, réinvitez-moi dans un an ou dans deux ans, on verra si le nombre de micro-entrepreneurs a beaucoup baissé. Moi, je pense que ce sera pas le cas. De la même manière, du côté du logement...
Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir quand même un petit peu, mais les temps sont durs, à la politique classique, je veux dire. Il n'y a pas de big bang fiscal un peu comme on pouvait l'espérer. Est-ce que les gilets jaunes sont passés par là?
Alors d'abord, le big bang fiscal, il a lieu. 27 milliards de baisse d'impôts en un quinquennat, on n'a jamais vu ça. Ensuite, 4 ans de suite avec un déficit public en dessous de 3%, sauf cette année pour des raisons comptables, ça s'était pas vu depuis des années. On ne peut pas dire qu'on fasse comme les autres. Est-ce qu'on fait suffisamment? C'est compliqué. On a une équation.
Non, mais vous êtes député, vous. Enfin, oui, je veux dire, vous n'êtes pas.
Et je vais travailler.
Vous n'êtes pas Gérald Darmanin, donc vous pouvez aussi avoir. Non, mais justement, vous pouvez être avoir une opinion différente.
Moi, ce que je vais travailler dans le budget, ce dont je vais m'assurer, c'est que le budget est bien en phase avec les deux priorités pour moi essentielles de l'acte 2, la transition écologique et la fracture territoriale et sociale. Et donc, je vais m'assurer qu'à chaque fois qu'on limite un avantage fiscal, on n'est pas en train d'aller à l'encontre de la transition écologique. Par exemple, le GNR, ça c'est un exemple qui montre qu'on va dans le bon sens.
Le CIT, le modifier le crédit d'impôt.
Mais
est-ce que ça va dans le bon sens du climat?
Oui, ça va dans le bon sens, parce qu'on va s'inquiéter du CITE et on va pas regarder l'ensemble des aides de la rénovation thermique, dont on sait qu'elles sont très inefficaces, qui vont à la fois augmenter en nombre et être bien mieux efficace grâce à l'Agence nationale de l'habitat dont on a modifié le fonctionnement. Ça, c'est typique. La rénovation thermique des bâtiments...
Je veux bien prendre le pari, vous voyez.
Pardon ?
Je veux bien prendre le pari pour voir si c'est efficace.
Écoutez, je suis prêt à prendre le pari. Et là encore, on se revoit dans un an et j'espère qu'on aura accéléré la rénovation thermique des bâtiments et qu'on l'aura pas ralenti.
Oui. Est-ce que c'est, vous voyez ce que je veux dire, mais en même temps ça fait des messages. Il faut plus de rénovation thermique et on supprime le CITE. Alors certes, il y a des, on modifie.
Pas le CITE,
non,
mais
bah, enfin ouais. on le diminue ouais, largement ouais. Quand même.
Oui, mais par ailleurs, on simplifie ce qu'on appelle le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Très important, on transforme un crédit d'impôt. Qui, par définition, oui, ne servait qu'à ceux qui payent de l'impôt, donc à peu près 40% des ménages français, en une prime qui va profiter du coup à tout le monde. Donc aujourd'hui, un ménage qui a peu de revenus, qui veut rénover son bâtiment de manière à faire des économies d'énergie, aura plus d'aide en 2020 qu'il n'en avait en 2019. C'est ça qui compte.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas des réductions, je ne sais pas, de fonctionnaires, même si on voit bien que dans certaines zones, on a énormément besoin de fonctionnaires.
Alors, on en supprime et on en ajoute. C'est-à-dire qu'on a décidé d'avoir un certain nombre de priorités, notamment, vous l'avez dit, la présence dans des zones territoriale, mais ce matin, la nouvelle, c'était on supprime des fonctionnaires au ministère de l'écologie. Et oui, parce que la meilleure manière d'accélérer la transition écologique, c'est pas nécessairement de rajouter des emplois au ministère, ça se saurait, il suffirait de le faire, on n'est pas là. On préfère augmenter le budget du ministère de l'écologie de près d'1 milliard d'euros, tout en réduisant les effectifs au sein du ministère de l'écologie. Donc on supprime les effectifs dans les endroits où on en a besoin, et on les rajoute dans les autres. Et ça, c'est important. Parce que plutôt que...
Moi, c'est j'étais compliqué à faire passer le message, vous voyez
non, mais
bien.
Moi, j'étais à Bercy il y a 20 ans.
Oui.
Il y a 20 ans, à Bercy, on naviguait avec ce qu'on appelait les bâtons. Le nombre d'équivalents temps plein. C'est pas ça le sujet. C'est est-ce qu'aujourd'hui, on a un service public efficace qui parfois va demander plus d'effectifs, c'est le cas de la police, c'est le cas des hôpitaux, et pour certains, moins d'effectifs et plus d'efficacité, ce sera notamment le cas du ministère de la Transition écologique et solidaire.
Ce budget, vous pensez que ça va... Il y a des améliorations à la marge que vous allez demander, vous, député de La République En Marche, président de la Commission des Affaires économiques ?
C'est un budget, autant les premiers budgets qu'on a faits, c'était des budgets assez structurants, des budgets avec des symboles. On a parlé de l'impôt sur la fortune, etc. Là, on est dans un budget qui est plus un budget d'exécution. Donc j'aurais tendance à dire le diable va être dans les détails. Donc on va regarder, en tout cas moi ça va être mon cas, de nous assurer que transition écologique et fracture sociale et territoriale sont bien améliorées par toutes les mesures. On va commencer à travailler un budget vert. Alors c'est le début, c'est la première année, on n'aura pas un...
Oui, parce que là, il n'est pas transformant, vous êtes d'accord avec moi?
Non, ce n'est pas un budget de transformation, c'est un budget de baisse d'impôts assez exceptionnel, et c'est un budget d'exécution. On met en œuvre ce qu'on avait dit qu'on ferait.
Non, mais donc le budget d'après, il sera vraiment vert?
Alors,
si j'ai bien
voilà,
compris
là,
ce que vous
me disiez. Là, je parlais d'un outil, c'est-à-dire que ce qu'on souhaiterait, c'est avoir un outil qui nous permet exactement de dire ce budget... Quel impact il a, par exemple, sur le réchauffement climatique? Donc on va avoir un premier exercice cette année, qui est un peu un brouillon, qui va nous permettre à la fois d'avoir toutes les dépenses dédiées à la transition écologique et une méthodologie pour commencer à mesurer, en gros, les émissions du budget de la France. Et l'année prochaine, on aura un outil qui, j'espère, sera plus efficace et on fera comme des pays comme l'Islande, le Canada, mais aussi le Maroc, qui font des budgets verts.
Oui. On dit un mot des retraites, quand même, c'est un point important avec demain cette grève de la SNCF. On a vu que celle des très suivies est la RATP. Celle de Force Ouvrière a été un peu noyée dans la marche pour le climat, donc ça c'est sûr. Demain, grève de la SNCF. Est-ce qu'il y a une petite crainte quand même d'agrégation de tous ces mécontentements, sachant qu'il y a des revendications qui sont assez légitimes? Ça peut être la RATP, je pensais surtout aux professions libérales à qui on a demandé
de créer leur statut. Alors d'abord, toutes les revendications sont légitimes. Je ne suis pas sûr qu'entamer des grèves et des blocages avant même que les négociations aient terminé, c'est classique, hein.
Une fois qu'elles sont terminées, c'est terminé, ça sert à rien.
Non, mais les négociations n'ont pas commencé encore, pardon. Donc, commencer par une manifestation, une grève, alors que les négociations n'ont pas commencé, on monte ses muscles, je ne suis pas sûr que
ce soit la meilleure manière
de concertation. Mais maintenant, on entre dans le dur de la réforme. Prenons juste une seconde de recul. Si on devait créer, sur une page blanche aujourd'hui, un système de retraite en France, est-ce qu'on choisirait d'avoir 42 régimes particuliers? Évidemment non. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de créer, c'est le régime de retraite des 70 ans qui viennent. Comme nos prédécesseurs l'ont fait il y a 70 ans.
Et donc, la question c'est, est-ce qu'il ne faut qu'un, puisque c'est un système de retraite universel? Vous voyez, c'est l'universalité qui peut quand même interroger.
Aujourd'hui, si vous êtes chauffeur de bus à Paris, que vous en avez marre de vous taper les programmes de nuit dans les banlieues parisiennes avec des enjeux de sécurité, et que vous avez envie de devenir chauffeur de bus à Nantes, c'est pas possible, vous allez perdre votre retraite.
Non, non, mais ça, tout le monde est d'accord
là-dessus.
Oui, oui, non, mais c'est important.
C'est-à-dire que si on ne met pas en cause cette évolution des régimes de retraite...
Mais ça veut dire que les avocats ont forcément, alors que c'est un métier très différent, la même retraite que ceux qui veulent être conducteurs de train ou journalistes.
Ils n'auront pas la même retraite que les conducteurs de bus. Non, non, il ne faut pas dire ça. Mais aujourd'hui, il y a déjà des gens, y compris d'ailleurs des anciens politiques, qui deviennent avocats à 50, 55 ou à 58 ans.
Oui, un peu trop du reste.
Ben oui, mais non, mais donc là, la réalité du métier d'avocat, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus un métier. Il y a des gens, un métier linéaire qu'on fait pendant 40 ans. Il y a des gens qui sont avocats une vingtaine d'années, qui décident de faire autre
chose. Pardonnez-moi, Roland Lescure, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, je pense que le métier de politique n'est plus un métier linéaire.
Non plus.
Celui d'avocat est en général linéaire. Il y a des exceptions qui sont les politiques.
Mais vous savez que les politiques sont maintenant logés à la même enseigne que tout le monde, et je m'en félicite. C'est nous qui avons voté dès qu'on est arrivé. Il n'y a pas de raison, aujourd'hui, que des intérêts catégoriels particuliers ne se mettent pas au service de l'intérêt général pour les 70 ans qui viennent. Il y aura une transition très longue. Donc, les avocats qui sont
du
avocats...
Le cheminement vers la maison commune, nous a expliqué le
mais
Premier
oui,
ministre.
Mais oui, moi je pense que c'est essentiel. Aujourd'hui, moi je suis frappé par le fait qu'en France, quels que soient les sujets, on a tendance à cliver. Il nous faut réunir la France, les Françaises et les Français autour de sujets importants.
C'est vous qui vous clivez quand vous caricaturez un petit peu le fait qu'il y a des régimes spéciaux.
Non, mais je caricature
qui sont,
bien.
Qui sont légitimes, et en plus c'est l'État qui a demandé la création de ça.
Exactement, autre temps, autre mœurs.
Et en plus, qui gagne beaucoup d'argent.
On a créé l'unité nationale au sortir de la guerre, en créant la sécurité sociale, le système de retraite, à une époque où on était dans des carrières totalement linéaires. Mmh. On est aujourd'hui au pied d'un mur, le 21e siècle, où les carrières ne seront plus linéaires. Où on peut être instituteur pendant 15 ans et ensuite décider d'ouvrir un petit restaurant à la campagne ou de devenir chef d'entreprise. Et ça, il faut qu'on en tienne compte. Mmh. Aujourd'hui, ces gens qui ont des carrières qu'on appelle hachées, mais qui seront en fait des carrières du 21e siècle, il faut qu'on puisse avoir un système de retraite à leur niveau. Alors soit on dit « on rase gratis »,
non, mais entre on rase gratis et on fait tout pareil. Vous voyez, je veux dire, il y a des curseurs. Je dirais ce qu'a bien réussi Jean-Paul Delevoye. Il y a des curseurs.
Moi, je pense qu'il y a évidemment des professions particulièrement pénibles. On a parlé des policiers, on a parlé des infirmiers. On a parlé aussi des instituteurs qui sont handicapés par une réforme si elle s'applique comme ça, parce que leurs primes, par exemple, non, ils n'ont pas de primes, donc elles ne sont pas intégrées aux retraites, etc. Donc il faut qu'on puisse gérer la transition dans la durée, et ça, Jean-Paul Delevoye s'y est engagé. On va prendre notre temps. Mais on va prendre notre temps avec une cible qui est une cible d'équité, de justice et de cohésion nationale. Pour moi, c'est essentiel.
Roland Lescure, toute dernière question. En tant que président de la Commission des affaires économiques, est-ce que vous allez, demander un rapport, évaluer, et demander à Air France peut-être de venir au secours d'Excel Airways, dans le dossier avec l'Azur, les salariés trouvent un avenir, là, justement. C'est un sujet pour vous, pour l'Assemblée nationale.
Oui, c'est un sujet.
Vous allez demander à auditionner.
J'espère qu'avec l'Azur et Excel Airways, merci, seront... sauver d'une manière ou d'une autre. Parce que...
Bah oui, mais comment ?
Non, mais d'abord, on se retrouve dans un secteur plus concurrentiel que jamais.
Ouais.
On a clairement des enjeux de soutenabilité pour deux compagnies, pour des raisons différentes d'ailleurs. Donc, malheureusement, je le regrette, ces entreprises font face à des difficultés, mais qui sont liées à la situation économique. C'est pas lié à l'État français, c'est pas lié à telle
ou
telle
taxes.
Décision.
Si, aux taxes. Non,
mais.
Enfin, Excel Airways, en tout cas, c'est ce qu'ils disent.
Non, mais les taxes
qui pénalisent énormément les compagnies aériennes françaises.
Ben oui, les taxes aujourd'hui, elles permettent de financer aussi des aéroports, la lutte contre la pollution, le transport public. Donc, on a aujourd'hui des sociétés en difficulté. Il y a des procédures de reprise qui sont engagées. Air France fait partie des candidats potentiels, mais il n'y a pas de raison que ce soit Air France et juste Air France. L'heure, ou l'année, ou l'époque où quelqu'un au Parlement pouvait dire « je souhaite qu'Air France fasse ci ou cela »,
c'est terminé. Est-ce que vous allez auditionner le président d'Air France?
Alors, je ne veux surtout pas me défiler, mais les transports, ça dépend de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Il est très probable qu'il soit...
député de La République En Marche,
qu'il soit auditionné. Moi, j'ai rencontré...
En plus d'Amérique du Nord, donc il faut bien...
J'ai rencontré Ben Smith il y a quelques semaines. Je trouve que c'est un excellent président d'Air France. Il va sans doute regarder ses dossiers avec tout le sérieux que ça mérite. Mais Air France, aujourd'hui, est là aussi pour gagner de l'argent, se développer, devenir une compagnie aérienne, pardon, de stature internationale.
Bon, il faut arrêter la privatisation de l'ADP, en tous les cas, pour l'instant.
Ah non. Oh, bah, pour l'instant, oui, alors, pendant que la procédure est en cours, évidemment. Mais il ne faut pas arrêter cette privatisation qui, pour moi, va permettre à Air France, à Aéroports de Paris, à la France, à Paris et à la région Île-de-France d'avoir un aéroport de classe mondiale.
Roland, ce qui est déjà le cas en l'occurrence. Roland Lescure, merci beaucoup d'être avec nous. Absolument, Président. Donc la Commission des Affaires économiques à l'Assemblée nationale n'est plus qu'à La République en marche. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr demain, on parlera d'écologie, là encore. À 8h15, je recevrai Yannick Jadot et on se retrouve dans l'orage 12h-13h. Bonne journée.